Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous arrivons à l'étude numéro 29. Et le titre sera « Les cruautés qui sont infligées à Jésus ». Après cela, ils le saisirent de leurs mains cruelles et l'amenèrent au milieu des cris de la populace. Comme s'achevait cette scène, je me retournais pour regarder les enfants et les anges. Tous semblaient plus affligés qu'à aucun autre moment. Je leur posais alors la question, « Peut-il au ciel y avoir du chagrin ?» Eh bien oui, j'ai fait l'année passée, vous pouvez retrouver cela sur le site internet, un CD à ce sujet. Et il est bon de savoir quand, par exemple, quelque chose qui nous paraît un peu douteux ou nous ne sommes pas très sûrs si c'est bien vrai ou pas. Quand les choses se confirment, cela est donc quelque chose qui est souvent utile pour que notre foi soit renforcée. Alors, Marietta entendit une voix qui lui dit « Tu fais bien, Marietta, de t'interroger. Oui, les anges ont des cœurs sensibles. Qui donc dans le ciel pourrait assister à la scène montrant la trahison du sauveur des pécheurs sans que son âme déborde de tristesse ?» Amen, prononcèrent des milliers de voix. Qui pourrait supporter ce triste spectacle ? Contemple cette victime innocente, regarde, il le frappe et le pousse avec brutalité sur le chemin pierreux. Il se moque de lui, le bafoue, le traite avec cruauté. Que tous les cieux fassent silence en contemplant cette scène atroce, car hélas, lui, le Rédempteur, souffre entre les mains des pécheurs. Réveillez-vous, esprit de compassion, voyez la divine bonté qu'adorent les anges, et les mépriser et rejeter des hommes. Or, comme se taisait cette voix, j'entendis un autre ange qui disait « Voici du plus haut des cieux descendent des anges ». Alors je vis très loin au-dessus de l'immense assemblée qui observait la scène, une innombrable compagnie d'êtres supérieurs. Ils avaient des palmes à la main et portaient des couronnes, et leurs couronnes représentaient les cieux étoilés. C'était, en miniature, l'image des univers qui, telle une couronne, entoure le trône de l'infini. À mesure qu'ils approchaient, une lumière éclatante les précédait, remplissant l'atmosphère spirituelle. Cette lumière était d'une nature si élevée que les anges de très haut rang, composant l'auditoire dont il était parlé juste avant, furent incapables d'en soutenir la vue. Son approche révélait à tel point l'imperfection de ma propre nature que j'essayais de me le cacher. Mais rien ne pouvait se dérober à la sainteté de son éclat. J'aurais souhaité fuir, mais il m'était impossible de réaliser ce désir. C'est alors que je me suis dit, si ce n'est là qu'une manifestation de ce qui est dans les cieux élevés, comment des mortels pourrait-il parvenir jusqu'à cette divine demeure? Comment l'homme méprisable peut-il espérer entrer dans une telle gloire? Pour une âme non préparé. Celle-ci se transformerait certainement en un feu dévorant. Or, plongé dans mes réflexions, j'entendis l'un des chérubins qui disait « Ange, et vous esprit de même nature, habitant des lieux célestes, prosternez-vous devant votre Seigneur, car il en est digne. Adorez-le avec le sentiment profond et immortel de vos esprits respectueux, car voici, oui, ce qui fait la joie des anges, c'est de lui offrir des louanges. Il est seul digne de toute adoration. Louez-le, glorifiez le Seigneur, lui qui a racheté la terre. Au moment où des créatures tombées retournent en se moquant et de leur voix impie lui disent « Salut roi, que l'univers de l'harmonie soit saisi de vénération » et que tout ce qui a de l'intelligence l'adore avec humilité. Alors, chacun se prosterna en silencieuse adoration, tandis que des hommes, égarés dans leur folie, l'entraînaient vers la salle du jugement. Puisque les anges le déclaraient Dieu manifesté en chair, ce qui m'étonnait le plus, c'est que, ayant la toute-puissance, il ne l'exerça pas pour dominer ceux qui voulaient le détruire. C'est aussi que, alors qu'étant présente des myriades d'anges très puissants, dont chacun aurait pu, semble-t-il, disperser à sa guise ceux qui amenaient leur Seigneur, eux non plus ne cherchaient pas à détourner la tempête menaçante. Devinant mes pensées, l'ange instructeur reprit. Il, Jésus-Christ, est venu pour chercher et sauver, et non pas pour détruire. Il subit les moqueries des méchants. Il s'offre lui-même en raison pour les pécheurs. Il s'offre comme rançon, exactement. Et par sa soumission, il accomplit la prophétie qui annonçait « Il ne brisera pas le roseau cassé, il ne laissera pas celui qui est sans défense, et il n'éteindra pas le luminon qui fume, il n'anéantira pas la vie et l'espérance de l'homme. » Sa mission est une mission de rédemption, non pas de jugement ni de sanction. Puis j'entendis une voix comme le bruit de grandes eaux disant « Sois étonné, ô terre, car tes péchés avaient attiré sur toi un indicible malheur, mais la compassion a inspiré cette offrande, et là ton Rédempteur gémit sous le fardeau. » Alors Miséricorde parla à justice en ces mots. Selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme rançon. Voilà la rançon. En Jésus-Christ, les nations de la terre trouveront un espoir. Voilà la victime et voici l'offrande. Dans cette offrande, il y a un principe qui ôte le péché et l'iniquité et rétablit le lien entre la race dépravée et la vie qui est en haut. Ensuite, l'ange parla aux enfants et dit « Voilà votre Rédempteur. En lui seul se trouve la vie qui peut donner la vie et sauver, et c'est par lui que vous êtes admis dans ce paradis. » Que chacun observe bien la scène à mesure qu'elle se déroule, car à travers elle, le ciel se propose d'impressionner les cœurs afin que tous arrivent à estimer le mieux possible la valeur que le Rédempteur représente pour eux. Pendant que l'ange leur parlait, l'expression de sympathie des enfants manifestait la pureté de leur être, la tendresse et l'émotion avec laquelle ils avaient suivi les souffrances du Fils de Dieu. Puis tous, d'une seule voix, dirent « Comment pourrons-nous offrir assez de louanges et d'actions de grâce envers Dieu pour ce don ?» Le don de la vie par son Fils unique, notre Sauveur. Ne pouvons-nous pas le soulager? Ne pouvons-nous rien pour partager sa souffrance? Oh, il est là, au milieu de ses ennemis. Ils ne le reconnaissent pas, ils lui infligent des douleurs inutiles. Qui peut supporter de voir cela? Courons donc à son secours, s'exclama la multitude. Car c'est notre Rédempteur, murmurèrent les lèvres pures de ceux qui peuplent le paradis des enfants. Oui, il est notre Seigneur. Il remplit les cieux d'harmonie par la perfection de sa personne et de mélodie, par la grâce de ses paroles. Il fait se lever la bénédiction telle une aube parée d'or et déverse sa sainte lumière et sa divine bonté sur l'œuvre de ses mains. Oh, les cieux célèbrent son saint nom, son nom adorable, et l'univers peuplé vibre au rythme doux et tendre de son amour manifesté. Cependant, nous le voyons sous sa forme d'homme divin, poussé violemment en avant par des créatures déchues, et elle l'amène au milieu d'éléments désordonnés jusqu'au tribunal supérieur d'une assemblée sans cœur, une religion où le nom de Yahvé résonne comme un son creux, mais sans être adoré. Ainsi s'exprima l'un des anges puissants devant l'auditoire de la multitude que personne ne peut compter. Alors tous dirent d'une seule voix, « Levons-nous, allons frapper à leur tour ceux qui se moquent du Seigneur. » « Non, 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 » dit une autre voix. Et je regardai, et voici Justice se tenait là, dans une nuée éblouissante. Elle avait dans sa main droite les sept tonnerres, d'où sortaient éclairs et tempêtes. Ceux-ci couvraient toute la terre, enveloppant l'humanité, les grands et les petits, les vivants et les morts, de leurs nuages effrayants. Les fondements de la terre en étaient ébranlés, et les âmes des hommes tremblaient d'effroi au grondement du tonnerre et dans l'obscurité de la tempête. Justice tenait dans la main gauche un rouleau sur lequel était inscrit, en paragraphe précis, un résumé de la loi éternelle de toutes les créatures spirituelles, morales ou intelligentes. C'en était un abrégé adapté à la faculté de compréhension de l'homme et qui correspondait en tout point à sa condition et à ses besoins. Devant Justice, on apercevait le personnage meurtri, difforme et sur le point de mourir, le sang de ses blessures tachant la terre sur laquelle il gisait. Justice reprit la parole. Il n'en sera pas ainsi, car l'âme qui pêche doit mourir. Je répète, car l'âme qui pêche doit mourir. Alors, violer la loi, si on viole la loi de Dieu, cela entraîne des conséquences irréversibles. Alors, ensuite, je pouvais voir s'avancer maintenant miséricorde. Elle pénétra dans la tempête, et se penchant sur le blessé, comme elle l'avait fait précédemment, elle dit « Écoute bien, celui qui était, qui est et qui vient, est descendu sur terre, et par l'incarnation de son esprit, va renouer avec les hommes le lien d'amour qui va les arracher à leur état de perdition. Il va restaurer l'âme abîmée et par la perfection de sa nature, recréer l'harmonie entre la race rebelle et la loi éternelle. En lui sera parfaitement accomplie cette réconciliation qui va sauver la planète perdue. Regarde ici, dit encore Miséricorde, regarde bien la rançon. Bien, répondit Justice, l'offrande est présentée, mais il est inscrit dans la loi de la vie et il est reconnu dans la loi de la grâce qu'il sera seul à fouler au pressoir. Mais ceci, dit-elle en se tournant vers l'armée des anges, cherche à épargner la victime et à empêcher l'usure finale. Miséricorde, s'adressant alors aux millions de spectateurs stupéfaits, reprit : c'est ainsi que Christ doit souffrir. Soutenez cette terrible attente pour pouvoir être les témoins des effets du péché sur la conscience et sur les sentiments du juste. Oh, combien devient écrasant le combat alors que le Fils de l'homme s'engage dans la guerre contre les puissances de mort. Alors la multitude demanda : permets-nous de ne pas regarder cette scène, car qui pourrait la soutenir ? Non, 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 dit Justice, n'est-il pas juste que les cieux regardent, que les cieux s'étonnent et s'émerveillent, que le séjour des morts chancelle sous cette marche terrifiante, celle de l'homme-dieu qui poursuit son avance pour franchir la porte de la mort, pour vaincre l'ennemi de l'humanité et finalement amener à la lumière la vie et l'immortalité. Amen, répondirent tous ceux qui regardaient et qui écoutaient. Oui, que ta volonté soit faite en vérité, Esprit éternel, dans le ciel et sur la terre, et aussi à travers nous, comme en tout ce qui a de l'intelligence, maintenant et à jamais. Oui, pour toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi, que tout le ciel réponde, dit Justice, que Dieu soit tout et au-dessus de tout, maintenant et à jamais. Amen, alléluia, répondirent ceux qui humblement observaient la scène, que ta volonté soit faite éternellement. Amen. Après que ces voix se soient tues, on vit la conspiration contre l'agneau de Dieu s'élever comme d'une fosse fumante. Elle apparut au-dessus de la foule des humains sous la forme d'un prince des démons à la taille gigantesque. Plusieurs cornes se dressaient sur sa tête, chacune d'elles émettant un jet de flamme rougeoyant qui, comme dans un nuage, enveloppèrent ce point précis de la terre d'une haine diabolique. Son front portait une inscription : crucifie-le, crucifie-le, car il n'est pas digne de vivre, il trompe le peuple. Sur sa poitrine était écrit Apollyon, la manifestation de l'inimitié contre le bien. On voyait marqué en lettres de feu sur son cœur ces mots : Jésus ne triomphera pas, mais la mort va le sceller à la tombe, là où dorment les mortels au royaume de l'inertie. Là, celui qui s'est proclamé fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, va se trouver enchaîné à la mort de par mon irrévocable décret. Ensuite, je briserai ses disciples sur les rochers des préjugés humains. L'obscurité, l'oppression, l'épouvante seront leur partage de siècle en siècle. Entendez bien cela, dit une voix sépulcrale, parce que ça vient des sépulcres, ça vient du bas, de l'enfer. Entendez bien cela, sifflèrent 10 000 visages démoniaques avec des langues de serpents, ce qui fit frémir la voûte des profondeurs, comme si quelque puissant potentat des régions infernales avait touché de son sceptre enflammé la source, le grand abîme. Alors un feu monta de la fosse, bien qu'invisible aux mortels, il s'éleva au milieu de cette foule, faisant que la sphère autour de chacun se fonde et brûle comme autant de flammes mêlées, chacun restait perçu comme une particule distincte de l'élément embrasé, mais la fusion de tous en croissait l'intensité, et cela au point de l'ensemble de la foule, qui prit l'allure d'une tornade de feu destructrice. Et celle-ci, elle envahit ce rassemblement de gens qui se trouvèrent être dans le monde visible, donc des instruments permettant que s'accomplisse le dessein impitoyable et diabolique à l'encontre de Jésus, la douce et humble victime. La bataille s'identifie, dit un ange qui se tenait au-dessus de la tourmente, dans la pure atmosphère du ciel. Soyez étonnés, vous tous les cieux, en assistant à cette scène. Voici l'heure où la mort et l'enfer s'allient. Maintenant, les puissances du mal lancent la charge contre l'homme-Dieu. Et lui, luttant contre la force combinée de l'inimitié et du destructeur, par compassion pour la race des mortels, est capable sous le poids de la souffrance et du péché des hommes. Oui, on peut dire qu'il est accablé sous ce poids terrible de la souffrance et du péché des hommes. Puis, voilà qu'une autre voix demanda « Qui ? Oui, qui va décider du dénouement ?» Car hélas, des milliers de serviteurs du malin sont rassemblés là. Quant aux humains qui entourent le supplicié, ils sont devenus semblables à ceux qui les inspirent. Ensuite, je les vis amener Jésus dans la salle d'audience des chefs du peuple. Il avait sur la tête une couronne d'épines. Ses tempes étaient percées de sang qui coulait sur ses joues. Il avait aussi les mains liées. Il ne se plaignait pas, mais levant les yeux, il remuait ses lèvres comme s'il parlait. Et brusquement, l'armée qui était montée de l'abîme tomba à la renverse comme frappée par une main puissante et s'exclamant « Écoutez, écoutez, il parle avec Dieu. C'est avec pitié qu'il regarde la foule des moqueurs. » Alors là, je veux vous dire que le combat n'est pas égal. Ce qui nous pousse, nous, c'est la haine, c'est la méchanceté et la vengeance. Mais lui, c'est l'amour, c'est l'humilité et la soumission. Donc, fuyons, car il le faut, fuyons loin de la puissance de cet esprit de douceur. C'est le pire des enfers que de supporter le contact de sa tendresse, et nous ne pouvons pas nous mesurer à son amour. Alors apparut de nouveau la manifestation incarnée du mal sous sa forme gigantesque. Il étendit la main et il en sortit un énorme nuage noir d'éléments qui se consumaient entre eux. En même temps, d'une voix terrifiante, il hurla « Debout, entrez dans le combat, car c'est maintenant le cœur de la bataille. Et alors quoi ? Même s'il regarde ses bourreaux avec amour, moi, dans combien de cœurs n'ai-je pas changé l'amour en haine ? Combien d'esprits tranquilles n'ai-je pas poussé à la folie ? Combien de bouches pieuses n'ai-je pas su remplir de blasphèmes ? Il ne gagnera pas, car maintenant le conflit touche à son point culminant. Aujourd'hui même, de ma propre main, je vais remporter une victoire éternelle pour moi. » À ces mots, il excita un homme à s'approcher de Jésus, debout au milieu de ses accusateurs, et à le frapper d'une gifle. À cet instant, je perçus un mouvement, comme si les cieux au-dessus de moi étaient tombés. Oh, quel spectacle ! Tous les anges étaient à genoux, leurs têtes inclinées. Ils levaient vers le ciel leurs mains pures et blanches comme la neige. Le ciel était dans le deuil. Ensuite, je vis quelqu'un d'autre s'approcher de Jésus et lui demander : « Es-tu le Christ ? Es-tu le roi des Juifs ?» Matthieu, chapitre 27, verset 11. Et Jésus répondit : « Tu le dis ? » ?»« Tu le dis ?» avait répondu Jésus. À ces mots, la puissance des ténèbres chancela, car sa voix avait troublé les portes de la mort. Puis tout fut tout à coup silencieux. Un ange s'adressa en ces mots aux enfants attristés. « Lui, votre rédempteur, il est frappé par l'envoyé impie du royaume de la mort, et ses tempes sont percées par la couronne d'épines. » Vous voyez là l'expression même du mal. C'est son élément, c'est son but de frapper tout ce qui est bon. Il ne peut exister que sous ce caractère-là. Les êtres abominables qui montent des profondeurs et qui assombrissent la terre, semblables à un nuage de fumée sortant d'un cratère, sont les mauvais esprits qui tourmentent les fils des hommes. Remplis de désirs qu'ils peuvent satisfaire, ils cherchent pour se venger à déverser leur insatiable passion sur l'humanité égarée. Alors, puisque Jésus est sur le point d'arracher à leur empire l'âme des humbles et qu'il est la manifestation de l'Esprit divin incarné, comme de plus sa mission en tant que rédempteur est de rompre le pouvoir de l'enchanteur pour mettre en pièces le royaume qu'il a établi sur les hommes de son côté, le prince de la puissance des ténèbres va essayer de le vaincre et de réduire en poussière, tel des débris en miettes, le royaume de la paix qu'il vient établir sur la terre. De plus, c'est ici que ces deux principes se rencontrent. La mort et l'enfer s'élèvent de leur soute infernale, brûlant de la rage inextinguible, de l'orgueil et de la haine diabolique, convaincue que l'heure décisive a sonné, poussée par cet être qu'on appelle Satan ou le trompeur et menteur, ils prennent le risque du combat. Le théâtre de cet affrontement est le monde extérieur, car c'est là que la condition des humains les rend vulnérables aux influences venant des sphères du bien et du mal. C'est la vérité. Et en plus, en caractère doué de réflexion, les hommes sont donc responsables. Ils sont donc des êtres moraux condamnés par leur transgression. Et c'est pourquoi la sainteté du trône de Dieu se déclare contre le pécheur. Il faut alors que la justice, justice est mon nom, soit exercée si les violateurs sont vivants. L'homme donc doit périr, ou bien il faut que par une très sage provision, il y ait un intermédiaire qui se place en médiateur entre l'homme et la loi qui l'a violée. C'est à cette fin qu'une rançon a été proposée, elle réunit toutes les qualités nécessaires pour pénétrer dans l'immense gouffre de la dépravation humaine, pour arrêter l'horrible courant et rester debout au milieu des éléments contraires, tout en faisant échapper les pécheurs. Or cela ne pouvait s'accomplir qu'en inversant le mouvement qui poussait l'humanité à sa propre destruction. Ceux qui montent de l'abîme travaillent à unir cet instinct destructeur avec les puissances de la mort et de l'enfer. Par conséquent, pour le salut du pécheur, eh bien, la mort et l'enfer vont être assujettis à la volonté du vainqueur. Et le principe du mal sera donc lié par une volonté toute-puissante et éternelle. Miséricorde est apparue en faveur de la race perdue, et dans ses bras, elle apporte une rançon, car sur lui, dit-elle, Dieu a placé le secours. Il est puissant et il est capable de sauver. Mais regardez, c'est maintenant que l'offrande descend dans le gouffre. On entendit alors une voix qui disait « Je suis la grâce et j'apporte la rançon ». Et justice se reprit « S'il en est capable, il triomphera de la mort, de l'enfer et du tombeau. Mais il ne devra ni se défendre, ni pousser des cris, et on ne l'entendra pas non plus élever la voix pour contester. » Miséricorde lui répondit « Il est comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvrira pas la bouche. » Ésaïe, chapitre 53, verset 7. « C'est bon, dit justice, et il faut encore qu'il offre son âme en sacrifice pour le péché avant de voir sa postérité. Bien qu'il descende dans l'antre de la mort, continue à miséricorde, ses jours se verront plongés et le bon plaisir de l'Éternel, l'œuvre de la rédemption, prospérera entre ses mains. Son règne sera éternel et son règne n'aura pas de fin, car à travers le médiateur, Dieu restera juste, tout en sauvant et en justifiant celui qui croit. Amen, répondit justice. Alléluia, amen, s'exclamèrent les esprits, les anges et les séraphins. Puis j'entendis Jésus dire à celui qui l'interrogeait sur la nature et sur l'objet de sa mission, et en même temps l'avertissait du danger de sa position. C'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour que le monde soit sauvé. Et puisque aucun homme ne peut venir au Père que par moi, j'accepte toutes les conséquences de ma mission. À ces mots-là, Miséricorde remplie d'une profonde émotion, leva les yeux vers le ciel tout en haut et dit « Immense est ta bonté, ô Éternel, puisque pour le salut du pécheur, le juste s'est placé sous l'emprise de la mort et il délivre même les justes et les injustes. » Puis s'approchant de justice, elle tendit la main en lui demandant « Acceptes-tu l'offrande que je présente ?» Alors justice se pencha sur la forme humaine ensanglantée que l'on aperçut une nouvelle fois, puis prenant la main que lui tendait la grâce, elle répondit « Lorsque, dans son humilité, cette victime aura tout supporté jusqu'à la fin, alors le pécheur sera sauvé en se repentant devant Dieu et en mettant sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. » Je vis alors cela, tout à coup, une compagnie d'anges que je pouvais voir qui descendait des cieux loin au-dessus de la Seine, comme s'ils étaient chargés d'une mission de miséricorde particulièrement lourde de conséquences. Ils s'avancèrent dans la cité vers le palais et s'arrêtaient juste au-dessus. L'un d'eux pénétra dans une chambre où se trouvait une femme respirant la bonté. Elle paraissait anxieuse, troublée, tandis qu'elle réfléchissait aux événements qui avaient surexcité le peuple. Elle ne pouvait voir l'ange, mais lui immédiatement se mit à l'apaiser, apportant le calme dans son être agité, qui bientôt tomba dans un doux sommeil. Avec quelle rapidité, pensais-je, cette femme troublée, hélas, a-t-elle trouvé tranquillité et repos sous l'influence de l'ange? Combien ceux qui habitent les demeures bénies du ciel sont vraiment libres de toute agitation et de tout souci? Elle se reposait, puis l'ange souffla sur elle le souffle du pur amour angélique. Alors elle s'éveilla en esprit et rêva, comme disent les humains, qu'elle se tenait sur la rive d'une jolie rivière bordée de fleurs de toute beauté du paradis céleste. L'eau de la rivière était brillante et transparente. Sur son cours se reflétait la splendeur du paysage paradisiaque, bordant ce fleuve de vie et l'environnant tout autour. Et l'eau claire vibrait des notes délicates qui faisaient entendre les chorales ailées, habitant le feuillage des arbres immortels. Et leur musique flottait dans l'éther spirituel au-dessus des plaines en fleurs. Et sous le charme d'une extase délicieuse, la femme éleva ses mains comme pour adorer, puis regardant en haut, elle aperçut la multitude innombrable des hôtes de cette demeure bénie. Ils venaient juste d'interrompre un chant angélique d'amour, dont la mélodie se répercutant en écho à travers les cieux et avait frappé son oreille ravie au moment où le roi se taisait. Tandis qu'elle se tenait debout, regardant les anges au-dessus d'elle, elle prit conscience que ces êtres immortels avaient cessé leur chant harmonieux et la mélodie des myriades d'oiseaux merveilleux s'éteignait également. Un silence, comme celui de la mort, couvrit ce royaume tout entier, comme sous l'étreinte d'un horrible suspense. Alors qu'elle cherchait à connaître la cause de ce changement, elle vit l'obscurité poser un voile sur la gracieuse rivière, les fleurs replièrent leur feuillage déployé, tandis que les étamines humblement recourbées dans leur corolle qui se fermaient laissait le parfum s'écouler en grosses gouttes comme des larmes, car même la brise s'était arrêtée dans le ciel. En haut, les armées angéliques s'étaient voilées la face, tandis qu'une lueur pâle, reflet de la tristesse, remplaçait la gloire éclatante qui avait illuminé tout ce lieu. La femme sentit donc son cœur défaillir, ses mains pendaient sans vie sur ses flancs, la tête courbée sur sa poitrine, son visage pâle envahi d'une immense tristesse, elle regarda en bas. Ses yeux avaient perdu leur éclat, la vie semblait l'avoir quittée, lorsque un ange la toucha et lui dit « Femme, pourquoi t'étonnes-tu? Ne viens-tu pas de la ville de Jérusalem, cité de l'ombre de la nuit ?» Dans son rêve, frappée par la voix de son étrange interlocuteur, elle leva les yeux et vit devant elle un des immortels habitants du ciel drapé d'un vêtement de deuil. Dans sa stupeur, elle chercha à s'enfuir, mais l'ange continua en ces mots : « N'aie pas peur, car dans ce lieu, aucun mal ne peut t'atteindre. Je viens en messager de l'innombrable compagnie des anges que tu as vus au-dessus de toi. C'est une mission de grâce que je remplis. Tu as contemplé la gloire et l'harmonie, tu as entendu la mélodie de ce royaume divin, tel est l'ordre normal de ceux qui sont purs et éternellement bénis. Rivière, fontaine, ruisseau, fleurs et tout ce qui vit s'expriment ensemble en louanges infinies. Ensuite, tu as été témoin du changement de sa soudaineté et de son étendue. Tu es toi-même dans la tristesse et tu voudrais savoir pourquoi. C'est pour cela que je suis venu. Nous souffrons avec notre Seigneur qui aujourd'hui, dans la ville, est entraîné devant un simulacre de tribunal pervers et plein de haine. Notre Seigneur qui est là, en train de souffrir, et la manifestation de l'Esprit divin, son incarnation. Dieu manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui que les Juifs cherchent à faire crucifier. Il s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à ceux qui l'accusent faussement, aux blasphémateurs ignominieux, aux injustes persécuteurs. Quant à toi, esprit de ce monde perdu, tu es concerné personnellement car hélas, ton mari, convaincu pourtant de l'innocence de Jésus, le livre en échange de la faveur du peuple. Cours voir ton époux et maître, tombe à ses pieds et avertis-le du danger qui le guette. Raconte-lui ce que tu as vu, comment le pays où règne l'immortalité est endeuillé. Dis-lui que chaque arbre, chaque plante, chaque fleur de ce royaume sont courbés par le chagrin, que les oiseaux du paradis replient leurs ailes dans une attente angoissée. Et dis-lui que les rivières et les eaux transparentes cachent leur gloire sur un voile d'obscurité. Les anges ont ôté leur couronne, ils ont posé leur lyre et ils restent muets, accablés de douleur, parce que en ce moment même, Jésus, ton Rédempteur, se tient debout devant le tribunal impitoyable d'hommes à la cruauté diabolique. Va, ne tarde pas, car un instant perdu peut causer la ruine de Pilate. Et toi, tu dois essayer de le sauver. « Réveille-toi, » dit l'ange, qui l'avait aidé à s'endormir paisiblement. Aussitôt, elle se leva vivement, tressaillie, oui, terrifiée par la vision, et puis elle se hâta d'envoyer dire à Pilate, son mari, « Garde-toi d'avoir affaire avec cet homme juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Cependant, Pilate, sans tenir compte de ses conseils, céda à la folie de la demande du peuple et il condamna Jésus à la croix et le livra pour être flagellé et crucifié. Lorsque la sentence fut prononcée et que l'on amena Jésus pour le battre de verge, le voilà qui, un court instant avait caché à nos yeux les habitants du domaine de la mort, fut levé et nous vîmes de nouveau apparaître le chef des démons entouré de ses armées. Il leva sa main et il en sortit un large drap de flammes sulfuriques qui claquait comme une bannière au-dessus des voûtes inférieures. On y voyait écrit « Victoire à Apollyon ». En ce jour, j'ai prévalu auprès des hommes et ils ont condamné l'innocent. Après quoi, j'entendis 10 milliers de voix sauvages et sépulcrales hurler « Salut à toi, prince des ténèbres, que tous te rendent hommage. Tu es victorieux et l'homme va sentir l'impact de l'aiguillon de la mort. Marche à la victoire, lève-toi. » car voici, nous montons à l'abîme de l'abîme, où nous demeurons pour contempler le spectacle de l'homme-Dieu frémissant sous la morsure du scorpion, et puis agonisant sur la croix romaine. Des « aha, aha » montèrent en volume de plus en plus puissant depuis les profondeurs des régions démoniaques, et l'air fut déchiré par ce chorus infernal, joint aux clameurs étourdissantes de la foule déchaînée qui se ruait vers la scène du supplice. « Cela n'est-il pas suffisant ?» gémit une voix profondément affligée. « Ô justice, es-tu donc inexorable ? La rançon ne s'est-elle pas montrée parfaite ? Faut-il que nous endurions une scène pareille ? L'innocent va-t-il souffrir encore davantage entre les mains des pécheurs ? Épargne, ô épargne ! Son dos est lacéré par le fouet, son front est en sang, son être entier frémit sous le poids du fardeau, il gémit à son esprit, la puissance du mal doit-elle vraiment triompher ? Justice répondit en ces mots. Il entra dans la souffrance avec la race humaine tombée et il va tout endurer jusqu'à ce que l'heure soit sonnée. Personne ne lui ôte la vie, car c'est lui seul qui la donne pour beaucoup d'hommes. Mais bien que Satan triomphe pour un temps, l'homme fort et bien armé a pénétré chez lui. L'angoisse gagna jusqu'à ce que chacun fût absorbé et envahi par son influence. De nouveau, Jésus se tenait devant nos yeux. Son aspect était défiguré. Il était affaibli et près de défaillir. Malgré cela, ils placèrent sur son dos ensanglanté l'énorme, on peut dire, pièce de bois sur laquelle il allait être exécuté et le forcèrent à avancer au milieu des cris, au milieu des moqueries et des blasphèmes de la populace vers le lieu de la crucifixion. Jusque-là, je n'avais rien dit, rendu muette par l'horreur des diverses scènes qui se déroulaient et se chevauchaient et passaient rapidement devant moi. Mais de voir Jésus trembler, vaciller sous sa charge, voir son dos ruisselant de sang depuis l'atroce flagellation, voir son front percé et boursouflé sous les pointes de la couronne d'épines et entendre le peuple en folie qui faisait retentir ses cris au-dessus de la ville, en disant, en criant, « Hôte, hôte, crucifiez-le, crucifiez-le !» Saint Jean chapitre 19 verset 15. Eh bien, c'en était trop. Me tournant vers mon guide, je m'écriai, « Pourquoi justice ne veut-elle pas épargner l'innocent et laisser souffrir le coupable, que le monde supporte les conséquences d'avoir violé la loi ? Mais qu'elle ne laisse pas souffrir une telle innocence qui endure la malédiction à cause de son identification avec le pécheur, seul moyen de son salut ? Oh, pourquoi, oui, pourquoi cette scène ne s'arrête-t-elle pas ? Pourquoi Jésus doit-il porter sa croix ? Pourquoi le peuple, rempli de rage, a-t-il la permission d'infliger tant de peine à celui qui est si pur, lui qui ne cherchait que leur bonheur ? Jésus continuait à marcher lentement, prêt à tomber chancelant dans l'angoisse et l'agonie. Il ne disait pas un mot, mais posait un regard d'amour et de pitié sur ses tortionnaires. J'en étais là de mes réflexions et de mes questions quand je m'aperçus qu'il avançait avec moins de fermeté, encore moins de force qu'avant, finalement il s'effondra sous sa charge. Son humanité avait succombé, et en même temps qu'il tombait, son esprit gémit au-dedans de lui, puis tout fut silencieux. Pour la première fois, persécuteurs et bourreaux arrêtèrent leur cruauté et manifestèrent de la sollicitude à son égard. Mais je me dis que cette sollicitude apparente, hypocrite, pouvait bien être attribuée à leur peur d'être privés du plaisir de le voir souffrir le supplice final de la croix sous laquelle il gisait maintenant, et perdant son sang en le voyant succomber de faiblesse, les saints et les anges furent remplis d'une émotion indescriptible. En vérité, il sembla que les cieux eux-mêmes, s'évanouissaient et que la joie s'en éloignait trop loin pour jamais pouvoir y retrouver. La scène jusqu'ici avait atteint un point culminant d'horreur qui tenaillait les cœurs. Mais lorsque Jésus défaillit sous le pesant fardeau et les coups dont on le frappait encore, tous les esprits s'émurent. Oui, il y avait de l'émotion qu'on pressait d'aller à son secours. Et c'est alors qu'une voix venant de loin dit, il est écrit de lui qu'il serait seul à fouler au pressoir. C'est exact, dit Justice, que les habitants de la terre, comme les anges dans le ciel, comprennent et sachent que c'est pour les pécheurs qu'ils souffrent toutes ces choses. C'est par ces meurtrissures qu'ils ont la guérison. Il franchit la porte de la mort pour en arracher tous ceux qui, par leur transgression, sont tombés sous sa coupe. Amen, répondit Miséricorde, qui au même moment apparut au-dessus de la croix. Amen, oui, il s'offre lui-même pour les coupables. Justice, voilà donc l'offrande que je te présente. S'il souffre, c'est entre les mains mêmes de ceux qu'il cherche à délivrer des conséquences de la violation de la loi divine. Ce n'est pas le coup d'une colère vengeresse infligée par le Père de la vie, mais c'est le déroulement de sa mission, tandis qu'il s'emploie à sauver les cœurs corrompus par l'inversion des valeurs sous l'inspiration du malin, que ni les cieux en haut, ni la terre en bas, ni les esprits perdus qui habitent au-dessous de la terre ne se prononcent contre la bonté du Dieu créateur, car c'est dans la nature du péché de s'opposer au bien, de chercher à le détruire, ainsi que ses manifestations. Dans ce que vous voyez là, c'est le péché seulement qui fait apparaître sa véritable nature sans retenue. Le péché, s'il était laissé sans contrôle, serait capable même d'éteindre le soleil universel, de faire du ciel un ramassis d'êtres malfaisants, de briser le gouvernement du Dieu créateur universel. Il rendrait nul les principes moraux et la nature des cieux éternels et ses cruautés intelligentes. Il pourrait porter atteinte ainsi au trône de Dieu et anéantir les choses éternelles. Oui, le péché est le contraire du bien. Il ignore toute forme de compassion. Il est la source des plans maléfiques. C'est à cause de cela que Jésus est venu pour s'offrir en rançon pour les pécheurs. Et c'est en raison de la loi de la vie qu'il vient offrir son amour à ceux qui sont esclaves pour avoir violé la loi, mais ceux-là même, dominés par les principes du mal, s'acharnent à le torturer et le tuer, lui qui s'est présenté devant eux comme un messager de paix et de bienveillance. Ce sont les hommes tombés, et non pas les démons immortels, qui se trouvent être le champ de bataille. Ce sont leurs âmes que Jésus cherche à sauver et que les démons cherchent à détruire. Jésus est venu au milieu d'eux comme le rédempteur et Apollyon l'affronte pour l'anéantir. Il ne saurait y avoir union entre ces deux principes. C'est pour cela que Jésus-Christ souffre, non pas par un décret du ciel, mais répétons-le bien, en raison de sa bonté, de sa mission en faveur des coupables et parce qu'il a engagé le combat contre la mort et l'enfer. Aurait-il la victoire? Aura-t-il vraiment la victoire? Interrogea un ange qui avait écouté les paroles de justice et de miséricorde. Oh oui, dit Miséricorde, il va triompher, car il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, Apocalypse 22, verset 16. Il va prévaloir et pourra rompre les sceaux, Apocalypse 5, verset 5. Alléluia, c'est lui qui vaincra, fut le cri qui monta des multitudes rassemblées. Que ton règne vienne, oui, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, amen, dit Justice. Puis de nouveau régna le silence. Aucun mouvement, ni aucune voix ne troubla l'atmosphère fascinée. Lorsque Justice et Miséricorde eurent cessé de parler, car il apparut que tous les témoins de cette scène, même les méchants de la terre et ceux qui habitent les sphères de ténèbres où demeurent les morts, même les esprits des régions inférieures où règne le mal, tous furent frappés par l'innocence de Jésus et par son humilité au sein de la torture. Certes, il n'aurait pu en être autrement à ce moment où son vrai caractère était mis en évidence. Il ne peut être trouvé en lui aucune faute, ni dans sa vie, ni à l'heure où il a été trahi, ni quand il fut condamné à la croix. Tel était donc le fruit de mes réflexions. Et c'est ce que tous devaient conclure en se souvenant qu'il venait d'être trahi, puis au milieu des moqueries vêtu d'un manteau royal de dérision, devant Hérode, il avait enduré de cruelles et fausses accusations des prêtres, son front percé par les épines, son dos lacéré par d'horribles flagellations, il n'avait pas ouvert la bouche pour faire entendre une plainte. Il avait répondu avec une absolue sincérité aux interrogations dont son destin semblait pourtant dépendre. Aucun écart hors de la vérité n'avait entaché ses lèvres saintes. Enfin, en toute chose, il avait honoré sa haute apparence et son appartenance à la divinité et affirmé sa nature en toute justice. Amen. Chers amis, nous continuerons demain matin, Dieu voulant. Et donc, comme souvent, pas toujours, mais quand cela est possible, eh bien, le Seigneur me donne quelques paroles. Quelques paroles que j'aimerais vous transmettre, on peut dire quelques enseignements et quelques encouragements pour votre semaine qui s'écoule. Nous en avons tous besoin, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur vous dit, retirez-vous dans le calme, retirez-vous dans le calme de la communion avec Jésus-Christ. Reposez-vous, oui, reposez-vous longuement dans ce calme et dans cette paix. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie que celle de converser et de cheminer avec votre Sauveur et Seigneur. Vous êtes à lui. C'est lorsqu'une âme trouve en lui son repos que commence pour elle la vraie vie. Sans son royaume, la vie ne se compte pas en années, comme c'est le cas sur terre. Elle commence avec la seconde naissance. Oui, cette nouvelle naissance dont Jésus-Christ parlait à Nicodème quand il lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » Saint Jean 3, verset 7. Nous ne connaissons pas d'autre vie vraie que la vie éternelle. Et quand un homme la possède, il vit. Or, voici ce que c'est que d'avoir la vie éternelle. C'est de connaître Dieu, de connaître son Père, et c'est le connaître lui, le Fils, qu'il a envoyé. Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Toute autre vie, ou soi-disant telle, paraît tellement puérile, enfantine et vide quand on a goûté la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous inonde d'amour, oui. Faites rayonner cet amour autour de vous. N'ayez aucune crainte. En ayant peur, vous ressembleriez à un jeune enfant de famille riche qui n'aurait en main qu'une petite pièce et qui se mettrait en peine pour savoir comment payer les loyers ou les contributions de la famille. N'est-ce pas là son affaire? La vôtre, c'est de lui faire confiance en tout à Jésus-Christ, votre Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons oublier qu'il est écrit que nous devons gagner notre vie à la sueur de notre front. Chers amis, nous allons donc terminer maintenant par la prière. Prions. Père Céleste, nous élevons nos cœurs, nous les tenons levés vers le Seigneur, hors des ténèbres vers la lumière, hors du désespoir vers la joie, hors de la mort vers la vie, hors de la servitude vers la liberté, après la nuit l'aurore, après l'hiver, le printemps, après la colline du crâne, le jardin d'Arimathée, après le vendredi, le dimanche. De même que nous avons commémoré le cruel supplice du Sauveur, sa mort solitaire, le drame de l'amour vaincu par la haine et la juste sauvagement que le juste a sauvagement été piétiné par l'ennemi. De même, préparons-nous à fêter avec sérieux et allégresse le merveilleux triomphe du ressuscité, du glorifié victorieux. Tout cela, il l'a fait pour nous racheter et pour nous sauver. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, il faut bien le dire, et que le Seigneur vous bénisse, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série assez étonnante, mais que nombreux seront ceux que cette histoire hors du commun, qui n'est pas la seule, puisque il y a des confirmations absolument réelles et même reconnues que Marietta n'était pas la seule personne à avoir eu le bonheur de vivre quelque chose hors du commun. Donc tout cela peut nous aider à nous approcher à nouveau d'une façon plus ferme, plus que jamais, à notre Sauveur et Seigneur, pour encore mieux vouloir le servir, car le temps touche bientôt à sa fin. Même le temps, pour certains d'entre nous, comme pour moi, par exemple, eh bien, faisons tout ce que nous pouvons, pendant que nous pouvons encore le faire, pour que des âmes puissent être sauvées. À bientôt, chers amis. Dieu et son Fils bien-aimé Jésus-Christ vous aiment. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.